dans les projets et dans les activités d'école.
Par exemple, chez Freinet, il y avait souvent ce qu'on trouvait dans les classes, c'était ça a coopéré autour de la réalisation du journal, ce qui était très intéressant. Mais l'adulte avait décidé de ce projet-là, ils articulaient les apprentissages autour de la... voilà. Donc nous, on a encore enlevé ça. Et hormis ces histoires de rituels incontournables, qui est une réponse aux attentes de la civilisation, de l'éducation nationale, et même...
Ce qu'on appelait le socle des apprentissages, c'est ça ?
Oui, voilà, ouais, c'est ça, oui. Donc une fois ça rassuré sur cet aspect-là, il reste beaucoup d'espace-temps dans la journée pour que les enfants puissent développer quelque chose qui vient vraiment d'eux, quoi. Ou accompagner quelqu'un, donc il parlait des marionnettes tout à l'heure, parce qu'en ce moment, ça germe cet attrait autour de la... Ils aiment beaucoup écrire des histoires, inventer, les communiquer aux autres, et tout d'un coup, les marionnettes apparaissent comme étant quelque chose, un média super simple d'utilisation, voilà.
Mais oui, les marionnettes en ce moment ont pris beaucoup de place et ont repris un peu de vie. C'est l'importance de la pédagogie du troisième type, c'est l'environnement qui doit être riche en fait pour amener vers les activités et vers l'envie de faire quelque chose. L'atelier marionnette était dans un autre espace. Avec Arnaud, on s'est questionné donc comment on pouvait le refaire vivre. On l'a redéplacé, on a rajouté juste deux, trois petits éléments et ça a pris vraiment vie encore plus comme on avait envie que ça se passe.
Donc nous, notre fonction de facilitateur, un des aspects en fait, c'est tout le temps de réfléchir sur la mise en place des ateliers permanents ici. Donc comme il n'y a pas de salle de classe comme on a l'habitude d'en voir, comment l'espace est structuré sous la forme d'ateliers permanents, donc l'atelier bricolage, peinture, argile, découpe, informatique, etc. Donc nous, par exemple, l'atelier bricolage, il n'a pas fonctionné pendant des années, pendant assez longtemps. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, on va le réinstaller autrement. On l'a mis à hauteur des enfants, on a mis des vrais outils, on les a mis au mur, etc. Et tout d'un coup, l'atelier bricolage a fonctionné. Et aujourd'hui, il est utilisé. On n'imaginerait plus qu'il n'y ait pas d'atelier bricolage ici. Et ça fonctionne très bien. Voilà.
Mais c'est ce que soulignait Gaël. En fait, c'est dans la disposition, dans la proposition, dans l'environnement, finalement, il y a cet attrait d'aller expérimenter, d'aller tester quelque chose et d'éventuellement rater, sans qu'il y ait de pression.
Voilà, très important. Il faut accepter vraiment qu'il y a des choses qui soient premièrement rudimentaires. Et puis, ça peut rester rudimentaire très longtemps. Parce que tant que c'est à cet état-là, ça veut dire que ça doit être dans cet état-là pour celui qui est en train de le faire. Et à un moment donné... l'exigence arrive, quoi. Donc il faut de la confiance. Non, mais ça va venir, en fait, l'exigence ou des aspects plus attractifs à regarder de l'extérieur.
Sur les élèves, on voit bien, ça fonctionne en collectif, ça fonctionne en école, en fait, au sens large. Une question toute bête qui est, mais... quid de ce qu'on pourrait appeler les niveaux scolaires, en fait, quand on est dans cette pédagogie-là. On entend bien la question de socle, mais on a l'habitude, quand il y a des élèves, de dire « Ah, bah il a un niveau CE2, CM1, vous voyez, enfin, ces références, on va dire, de l'école publique. Comment ça fonctionne chez vous sur ces références de niveau d'apprentissage, de là où ils en sont? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a des équivalences ou des socles qui font lien avec des références qu'on maîtriserait peut-être un peu plus dans le milieu ordinaire ?
On va quand même se référer à l'âge, plus ou moins. Donc, à tel âge, vous êtes plus ou moins dans tel ou tel niveau de classe. Après, on voit par rapport à ce qu'ils ont abordé comme apprentissage, il va y avoir des étudiants qui vont avoir un niveau CE1 en français et un niveau 6e en mathématiques parce qu'ils auraient travaillé un peu plus les mathématiques. Voilà. Nous, on se réfère vraiment plus au socle commun d'apprentissage et de connaissances. Donc, ça permet quand même de pouvoir, pour eux, se sentir rejoint avec les étudiants de l'extérieur, les enfants dans d'autres écoles à l'extérieur, en se disant « Bon, moi, je suis plutôt en CE1, en CE2, en 6e. » Mais sinon, ici, en termes d'apprentissage, non, on ne calcule pas, on ne parle pas, en fait, de niveau scolaire, clairement.
Mais pourquoi du coup ? Parce que si on met la pression à quelqu'un sur le fait qu'il devrait savoir ceci à ce moment-là, c'est quand même extrêmement inhibant en fait. On dit à quelqu'un, c'était pas normal en fait, c'est pas comme ça qu'il faut, etc. Alors c'est, ça va pas du tout en fait, parce que créer d'inhibition chez quelqu'un, ça va l'empêcher au contraire de se mettre naturellement sur quelque chose vers lequel il pourrait à un autre moment en fait prendre beaucoup de plaisir, et du coup que ça se passe vraiment très très rapidement. On voit par exemple sur la question de l'orthographe ici que c'est pas la question pendant des fois très longtemps, mais ce qui nous intéresse plus c'est la relation qu'ils vont trouver à l'écriture, le plaisir d'écrire, le sens que ça a d'écrire, de communiquer quelque chose à quelqu'un, d'inventer, ou même juste pour moi-même. Enfin bon, il y a tout un tas de fonctions au monde de l'écriture. L'orthographe, une fois qu'il décide de s'y mettre, ça peut aller relativement vite en fait. Donc il faut être en compte. C'est pour ça que c'est important d'avoir des années d'expérience, ce qu'on commence tout doucement à voir, il nous en faut encore beaucoup, pour nous mettre en confiance que ça va se faire quand ça sera la bonne heure de ça. Quoi.
Sur, je sais pas si vous avez le recul ou pas, des étudiants, ça fait plusieurs années maintenant que l'école démocratique fonctionne. Est-ce que vous avez le recul des étudiants, peut-être qui étaient les plus âgés au démarrage, savoir comment ça fonctionne de manière globale, comment au plus loin on va sur ces méthodes pédagogiques? C'est un peu brouillon cette question. Hein.
Non,
je vous en fais ce que vous en voulez.
Tu te demandes en fait, est-ce que vous avez du feedback sur l'efficience de votre système?
C'est
en fait.
Ça, c'est
ouais.
Ça.
Et ben,
j'essaie de mettre les formes, mais c'est salit.
On a peu de recul, évidemment, c'est notre sixième année. Celui qu'on a eu, au début, on a eu beaucoup de collégiens qui étaient arrivés ici, qui avaient eu des parcours difficiles. Il y avait une raison pour laquelle ils arrivent ici au début. Pour ceux-là, des fois, ils sont restés deux ans ici. Ils ont tous réintégré des parcours scolaires classiques et dans la plupart des cas, je dirais 90 ou 95%, ça se passe très bien. Donc, ils ont bénéficié de cette petite parenthèse ici et ça leur a permis de réintégrer le. Voilà.
Une zone de rebond.
Oui, ça a servi à ça. Mais je ne qualifierais pas notre projet comme étant celui-ci aujourd'hui. Donc, après, là, on a des étudiants qui sont là depuis maintenant 5-6 ans. On les voit, nous, se développer ici. Et ce que je peux dire, moi, en fait, c'est que j'ai vraiment confiance, en fait, de leur capacité d'adaptation ensuite. Voilà. On n'est pas une petite bulle qui n'a rien à voir avec le monde extérieur. Tu les as entendus parler. Nous, on les voit se développer. Et je suis vraiment en confiance sur cette capacité pour eux, en fait, de pouvoir rejoindre le système classique. En gros, quoi, juste pour terminer là-dessus, je veux dire que pour intégrer une sixième, même simplement sur les apprentissages académiques, si on sait lire, écrire convenablement et qu'on a certaines bases en mathématiques, c'est bon. Voilà, quoi. Et pour le reste, ils ont développé d'autres compétences en fait, qui vont être extrêmement importantes pour la suite. Par exemple, la capacité de travailler en autonomie. Ça, je sais qu'ils savent s'organiser, travailler tout seul, ce qui n'est pas forcément le cas en fait, de beaucoup d'élèves qui arrivent en sixième.
Sur ah ça y est, j'en avais une bien de question, elle vient de s'envoler, c'est terrible ça, les idées s'envolent parfois, mais c'est pas grave, on va poursuivre autrement. Oh, c'est terrible. Damien, t'en avais une de question, ça va me permettre de retrouver la mienne.
Voilà. Je vais te soulager sur cette question. Moi je me posais la question du profil. A été évoqué à l'instant le fait que, et c'est très agréable à entendre, hein, on se laisse porter en fonction du temps, des moments, des souhaits. Voilà les marionnettes qui sont en ce moment au goût du jour et qui permettent mille choses. Mais les profils de vos étudiants, est-ce qu'il est possible de refuser un profil, un enfant, un jeune? Est-ce qu'il y aurait des conditions de stop justement à l'entrée dans cette école démocratique hébroïcienne? Puisqu'on y entend et on y ressent beaucoup de choses positives quant à l'épanouissement, ça semble établi et clair. Mais voilà, est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient limites ou à stopper? Voilà.
Oui, ça nous est arrivé effectivement de refuser des étudiants qui souhaitaient s'inscrire à l'école. J'aime bien en fait le terme de limite, Damien, parce que c'est dans les premières années, on a appris vraiment que bah on avait des limites en tant qu'individu, en tant qu'encadrant, en tant que structure. Ça nous a permis de... Malheureusement pour les personnes qui ont souhaité s'inscrire, nous, de dire non, on peut pas parce qu'on sait que déjà, on a des profils qui demandent des accompagnements spécifiques et que une de plus serait mettre en danger, en fait, la pédagogie et la structure et le collectif.
Il y en aurait d'autres aussi. En fait, c'est de sentir on a vraiment une structure qui est très très différente de ce qui se vit autre part. Et du coup, si on sent pas qu'il y a une adéquation suffisante entre le cercle familial et le nôtre, on se met un bâton dans le pied parce que s'il y a beaucoup de, ça peut être assez anxiogène en fait. Donc il faut qu'on réussisse à mesurer le niveau d'anxiété potentielle en fait de la famille sur ce qui se passe ici. Sinon, ça l'étudiant va être dérangé en fait par l'inquiétude de ses parents.
J'ai retrouvé ma question, en fait, elle était bien en plus. C'était pour souligner ces notions. Est-ce qu'on a abordé la question d'autonomie, notamment dans le travail? Moi, j'ai ressenti, et c'est un peu en filigrane de tout ce qu'on vient de se dire, cette capacité d'adaptation quand même, qui est peut-être une des capacités importantes développées par les étudiants ici, cette capacité d'adaptation, en fait, de pas être dépourvu face à... une nouvelle donnée, un changement, quelque chose d'inattendu. Je ne sais pas si je dis des bêtises.
Non, effectivement, en fait, il y a une capacité d'observation, de ressenti, en fait, de ce qui peut apparaître à un moment donné. Et il y a une capacité, en fait, de pouvoir prendre et trouver la meilleure alternative ou stratégie, en fait, pour s'adapter à la situation en cours.
Pour terminer cet échange autour de la pédagogie, est-ce qu'il y a une zone de fierté particulière pour vous, Arnaud, Gaël, les auditeurs ne voient pas, mais j'avais mélangé mes regards, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une zone de fierté particulière ou une zone de réussite qui aurait été au-delà des attentes, ou est-ce qu'il y a une réussite ou une fierté particulière dans cette école? Vous n'avez pas le droit de me dire tout, hein. Ça ne marche pas.
Hein. J'allais dire une seule.
Une à mettre en avant, en fait, exemple. J'aime bien revenir à chaque fois sur des exemples, en fait, moi, pour que ce soit concret.
Ouais. Moi, tout à l'heure, j'écoutais les étudiants parler, j'ai pas mal d'émotions. J'avais les larmes qui me venaient aux yeux de les entendre parler du dispositif, de leur participation à la prise de décision, tout ça. Bon, c'est vraiment un changement de paradigme. Avoir réussi tous ensemble à mettre en place quelque chose qui commence à tenir un petit peu la route, ça, c'est une belle fierté. J'en rajouterai bien une petite deuxième à titre personnel, c'est qu'on peut avoir des grandes idées, mais ceux qui peuvent empêcher en fait le système de se développer, en fait, c'est nous. C'est pas les enfants. Et donc le travail que nous avons tous fait ici, je parle d'un travail personnel qui dit que tout d'un coup, j'ai conscience que c'est moi en fait qui peux empêcher quelque chose. Nécessairement, il y a un travail intérieur à faire. Donc moi, ma satisfaction personnelle, en fait, c'est ça, c'est d'avoir dans le temps réussi. Je vois ma collègue qui mouille les yeux là. C'est d'avoir réussi à tenir dans le temps et à faire ce travail d'introspection et de remise en question permanente, parce que c'est vraiment à la fois passionnant mais éprouvant aussi, quoi. Voilà.
Gaël, peut-être. Alors là, je te cueille, hein, une zone de fierté, une zone ou un élément particulier que tu souhaiterais mettre en avant.
Je fais un bis sur ce que vient de dire Arnaud, hein, le travail personnel, individuel, parce que effectivement notre posture est vraiment importante. La deuxième fierté, j'entendais Elena lire à voix haute une histoire pendant qu'on était en train de d'installer le studio. Et je repensais à ces questions de mon entourage qui me disaient « mais elle va pas aller à l'école classique, elle aura pas de cours, on va pas lui apprendre à lire, à écrire ». Et aujourd'hui, elle lit, elle écrit, elle adore lire, elle adore écrire. Et voilà, donc je dirais que ce serait celle-ci.
Très bien.
Et je vais en rajouter une deuxième.
Bah vas-y, vas-y.
Une deuxième, parce que je pense à une autre étudiante, Julia, aussi, qui a une certaine capacité à trouver, en fait, la manière dont elle veut apprendre. Et régulièrement, on re-questionne ensemble, toutes les deux, là où elle veut mettre le doigt et là où elle veut aller voir certains apprentissages. Et là, récemment, on a arrêté la conjugaison et on est passé à de l'autocorrection dans l'orthographe. Et voilà. Donc cette capacité aussi vraiment à savoir où est-ce qu'ils ont envie d'aller apprendre.
Oui, Arnaud.
Ouais, c'est important.
Tu voulais en rajouter un troisième.
Non, c'est plutôt en termes de définition en fait du projet. Le ce qui est central en fait, c'est la question de l'autonomie et ce qui essaie de se laisser, on laisse se développer cette capacité en fait des individus à aller voir chez eux en fait. Je répondis plus sur ce que disait Gaël en fait, c'est aller sonder à l'intérieur de moi, savoir ce que j'ai vraiment envie de faire. Avant d'entendre ce que on me dit qu'il faut faire, en fait, je pense que c'est vraiment ça, en fait, qui est central. Il faut du temps, il faut beaucoup d'espace-temps, en fait, pour que ça puisse se développer ou ne pas l'abîmer. En fait.
Merci beaucoup à vous, Gaël et Arnaud, d'avoir échangé sur cette notion de pédagogie. Je vous propose qu'on écoute un court extrait, parce que ça avait duré un petit moment, et puis on va vers un court extrait d'une des réunions du vendredi à laquelle j'avais assisté. Je propose, ouais, sur les présentations, je propose qu'on en écoute un petit extrait.
Alors, j'ai... Le téléphone de l'école sert à faire des publications sur Arbuste. Je lui ai ajouté un outil aussi parce qu'on a eu besoin en fait de scanner des documents pour l'envoyer au cercle de décision. Et donc je me suis dit que le téléphone de l'école serait le plus approprié pour ça. Donc j'ai installé ce qu'on appelle l'application AnyScan, qui permet de prendre en photo un document et qu'il soit visible comme si c'était le vrai. C'est un scanner, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des scanners. Mmh. Et ensuite, de pouvoir l'envoyer dans le drive des étudiants, pour qu'après, du drive des étudiants, il puisse être envoyé via l'adresse mail des étudiants. Des questions ?
Comment ça s'utilise ?
Je crois que je vais faire plutôt, je préfère venir à la demande et au besoin. Parce que là, l'expliquer là maintenant, j'ai l'impression que je vais perdre mon temps et énergie.
Ok. Arnaud, Argile.
Ok, moi il faut se déplacer. Moi il faut se déplacer. Alors, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'il y en a d'autres après ou pas?
Mais il y en a une qui m'a aidé, mais elle n'est pas là.
Ah, il a mis une présentation, enfin, voilà.
Et après, il y a quelque chose?
Non.
Du coup, on va, c'est vers la salle blanche. Vous soutenez, dernière étape, donc les argiles ont été cuites. Et cette fois-ci, l'émail a été cuit. Je ne sais pas si vous voulez toucher. Vous pouvez, ça c'est pour mettre sur les. Donc, si vous pouvez mettre derrière, ça va rentrer dans la palette de peinture là. Comme ça on va avoir des beaux pots à eau quoi. Et puis il y a tout. Donc ça, Léon, celui-ci, il a été émaillé aussi.
Ok, Arnaud, je le laisse.
Le mien. Ouais, tu peux le laisser maintenant.
Arnaud, tu peux me donner le mien.
Je pense que le tien c'est celui-ci.
Oui, et celui-là qui est en dessous. Ah non, c'est un autre. C'est lui là.
Donc, aujourd'hui j'ai fait le je ne sais combien thème de chapitre du brouillon. Voilà. Petit récap. Oui, donc il y avait le méchant qui avait attaqué Brouillon Mangeur, qui et ben il était toujours vivant. Et du coup, il voulait les attaquer, le méchant, sauf que quelqu'un arrive et dit « Faudrait suivre ». Mais cette fois, j'ai fait la suite. La personne avait de gros muscles. Et boum! La personne a tué le méchant. Voilà.
Une présentation par l'archer. Oh non, j'attends mes fesses à
l'arrière. Vas-y, vas-y. Il est plus de 15. Il est 16h17.
Aujourd'hui.
Voilà un court extrait de ce qui se passe dans la réunion du vendredi, dans la réunion de présentation que les étudiants à laquelle les étudiants m'ont invité. Alors ça avait duré à peu près une demi-heure hein, cette réunion globale. Je vous en ai pris des petits extraits de 3 minutes parce que bon, on n'allait pas la revivre intégralement non plus. Nous sommes toujours en direct, en live, en public de l'école démocratique hébroïcienne et nous avons parlé avec la gouvernance, avec les étudiants, avec les encadrants. Un des autres éléments importants de cette école, ce sont les parents. Et justement, nous avons quelques parents avec nous. Nous avons Majalé, Myriam et Dorian. Bonjour à vous. Ma toute première question, c'est quel est votre regard un petit peu sur cette école démocratique hébroïcienne? Quel est votre regard de parent? Comment est-ce que vous voyez vos enfants évoluer dans cette école? Majalé, peut-être. Alors vous êtes aussi trésorière de l'association, je le précise. Majalé, comment vous voyez votre enfant évoluer dans cette école?
Bonjour. Alors, moi, je suis la maman de Kavia. Et du coup, je vois que vraiment, depuis qu'elle est dans cette école, elle a l'air plutôt sereine sur ses décisions. J'arrive à comparer par rapport à mon entourage. Et souvent, on me dit qu'elle a l'air très posée. Et du coup, voilà, elle est épanouie, elle a le plaisir de venir à l'école. Et ça, je pense que c'est très important en tant que parent.
Je vais faire un petit peu le tour un petit peu de chacun des parents. Myriam, vous, comment vous voyez évoluer votre enfant dans cette école?
Oui, bonjour. Donc moi, je suis maman de 3 enfants, Léon, Zoé et Samuel.
Les 3 sont à l'école démocratique?
Les 3 sont ici. Léon et Zoé, ils sont là depuis l'ouverture. Et Samuel, il est né plus tard. Donc voilà, il a commencé sa scolarité, c'est 3 ans. Je rejoins Majalé sur l'évolution, effectivement, et la gestion de nos enfants dans l'environnement, dans le quotidien avec les adultes, les enfants. Ils nous apprennent, ils m'apprennent beaucoup sur la vie, moi-même, parce que tout ce qu'ils apprennent ici, du coup, je n'ai pas pu faire en tant qu'enfant. Je le fais depuis que je suis adulte. Du coup, c'est vraiment enrichissant pour moi. Moi-même, je viens d'Allemagne, donc d'où mon accent. Et quand je suis arrivée en France, il y a presque 16 ans, le rythme de l'école ici, c'était compliqué pour moi. Avoir des enfants toute la journée à l'école, c'était difficile. Et on était dans le projet associatif pour la création de l'école. Et pour moi, c'était important que mes enfants apprennent à vivre, à se développer, à se chercher, à prendre confiance en eux.
Parce que Léon et Zoé ont été à l'école classique, ordinaire, c'est ça, sur le début de la scolarité?
Non. J'ai fait de l'école à la maison, l'école jusqu'à la maison, les 7 d'accord. ans de Léon et les 4 ans de Zoé. Et du coup, l'école s'est ouverte. Et voilà, ça c'était la suite de notre éducation qu'on a démarré en fait, voilà.
Très bien. Dorian, vous êtes le papa de Thiago.
Oui, et de Julia. Qui est,
et de Julia aussi.
Qui après reste à la maison.
D'accord. Quel est un petit peu votre regard sur cette école démocratique et vos enfants, comment vous les voyez peut-être par rapport au reste du monde, par rapport au reste des enfants que vous pouvez côtoyer?
J'avais peut-être la peur au début de ils vont pas apprendre à lire, pas apprendre à écrire, ce genre de choses. C'est bon, je suis rassuré. Le papa normal est rassuré, ils savent lire, ils savent écrire. Ils l'ont fait quand on leur a dit, mais quand ils en avaient envie. Et je le vois surtout chez Julia, qui a un vrai plaisir à lire, etc. Donc, les bases viennent quand ils le sentent et j'ai l'impression que ça se passe beaucoup mieux comme ça. Après, je savais qu'ils allaient apprendre beaucoup d'autres choses sur la gestion émotionnelle, ce genre de choses qu'on met vraiment de côté dans l'éducation classique. Et Julia a fait sa première section de maternelle et une moitié de deuxième section de maternelle dans l'enseignement classique. Et j'ai vu que c'était vraiment mis de côté. Et au point où voilà, elle avait mal au ventre en allant à l'école, ce genre de choses. Je pense qu'on n'était pas loin de la phobie scolaire à ce moment-là. Ça peut tomber sur le mauvais, éducateur à ce moment-là, le mauvais prof. Voilà. Et maintenant, quand je vois le plaisir que les deux ont à venir à l'école, voilà, ça fait vraiment plaisir. C'est ça la grosse évolution, c'est le plaisir de venir et je pense que c'est indispensable pour l'apprentissage.
Aborder l'apprentissage de cette manière avec des enfants dans le cadre, on va dire, de l'école démocratique en particulier, mais dans le cadre de l'école, j'imagine qu'il y a des incidences à la maison, du coup, de ce fonctionnement spécifique de l'école démocratique sur le temps scolaire. J'imagine que ça induit des choses dans le fonctionnement à la maison, ça induit des fonctionnements, des questionnements et des façons de fonctionner pour vous à la maison aussi, non ?
Oui.
Qu'est-ce que ça induit du coup à la maison ?
Alors déjà, c'est en fait, on considère l'enfant en tant qu'un individu. Donc déjà, ça change parce qu'en général, dans le quotidien de tout le monde, un enfant, ça reste un enfant. Donc il y a des choses qu'on laisse pas faire. Alors que là, Kavya, elle sait manier un couteau, elle sait nettoyer le micro-ondes, elle sait me dire les choses quand ça va pas. Alors que souvent. La communication entre un enfant et le parent il prend toujours le dessus, alors que là Kavya elle arrive à me dire maman là t'as les émotions qui sont montées, t'aurais pu me dire ça différemment. Et là on se dit ouais, c'est mieux comme ça que de passer notre temps à crier sur l'enfant à... Donc voilà, tout ça fait que le quotidien est plus simple.
Ça oblige quand même à se questionner en tant que parent, j'imagine. Je vois Myriam en train de sourire. Ça oblige à se positionner différemment en tant que parent, finalement, de mettre les enfants ici.
Oui, tout à fait. Même si on est à fond dedans et même on était dans la création, ça n'empêche pas... Ah !
Ouais, c'est un petit faux contact, pas d'inquiétude. Okay. Tout va bien.
Donc oui, même si on était dans la création et on souhaite vraiment ça... Ça n'empêche pas que ça nous met à l'épreuve parce que nous, on n'a pas eu cette éducation-là. Et ce que je disais au début, oui, ils m'apprennent beaucoup sur moi-même, en fait, et sur la gestion de la vie parce que la gestion émotionnelle et de même se laisser recadrer, c'est pas forcément le mot-là, mais que l'enfant prend une place en disant que ben là, je suis pas d'accord. Et dans notre société, on laisse pas ça faire. Donc, effectivement, ça nous met en question. Mais ça me rassure quand même d'une certaine manière parce qu'ils le font d'une manière correcte et pas... c'est justifié en fait et c'est dans le ton comme il faut. Et on a beaucoup d'entourage avec enfants ou sans enfants. Et ils nous disent souvent qu'on voit une différence en fait. Donc ça nous flatte effectivement. Mais la gestion de nos enfants dans le quotidien, dans les groupes voilà, où on se trouve... Donc voilà, c'est rassurant. Ça me rassure pourquoi on a fait ce choix, même si j'ai eu la même peur que Dorian au début aussi, oui.
Dorian, du coup, c'est plus fatigant d'avoir des enfants qui vont à l'école démocratique, c'est ça ?
Alors, fatigant, je sais pas. Ça demande ouais, une ouverture d'esprit, de prêt à se remettre en question sur beaucoup de choses. Et je pense que c'était aussi, moi, mon chemin de personne que d'avoir des enfants qui allaient m'apprendre des choses. Du coup, ça, j'ai pas eu la même enfance qu'eux. Moi, j'étais un enfant qui devait obéir. Et moi, ce que je leur demande, c'est de coopérer. On est une équipe et je suis pas leur patron qui leur dit quoi faire et machin. Et tout. Ils ont des aptitudes que j'ai pas, j'ai des aptitudes qu'ils ont pas. Et ensemble, on va réussir à faire des choses en partageant.
Ça demande forcément, en vous entendant comme ça, je suis en train de me dire que parfois il y a dans le rythme de la vie au quotidien, la fatigue, la lassitude, le timing, la rapidité, ou le raccourci peut être rapidement cette justement domination qu'on abordait tout à l'heure en début d'émission. Ce rapport de domination peut faciliter parfois les choses. La tentation peut être énorme, j'imagine. Ça demande à être attentif en permanence à ça. Enfin, c'est comment ça fonctionne au quotidien, parce que entre l'idée, entre nos intentions et puis finalement la réalité parfois qui nous rattrape, ça oblige à quoi du coup quand on est parent?
De désapprendre.